Je vais donc maintenant présenter l'intervenant de ce soir, M. Murat Yalçıntaş. Il est né en 1965 à Istanbul. Il a fait des études d'ingénierie mécanique en Turquie, puis un master à la Boston University à Bruxelles. Il a été chercheur chef expert dans le cadre de l'Union européenne à Bruxelles, 1989 à 1990, responsable de projet à la Banque islamique de développement pendant 3 ans. De 1995 à 1999, il a été élu comme membre de l'Assemblée de la Chambre de commerce d'Istanbul et à partir de 2005 et en étant réélu en 2009, président du bureau exécutif de la Chambre de commerce d'Istanbul. Il est aussi le premier président turc de l'ASCAM, qui est une organisation comprenant plus de 200 chambres de commerce de 22 pays du pourtour méditerranéen. Et en mai 2009, il a été nommé vice-président de l'Union des chambres de commerce de Turquie. C'est donc un acteur de l'économie turque de premier plan. Il est aussi un des fondateurs du parti Justice et Développement. Je vais donc lui donner la parole pour une quarantaine, cinquantaine de minutes, selon nos habitudes. Cela commencera par la projection d'un bref film pour camper le paysage, en quelque sorte. Puis ensuite, il interviendra. Et après son intervention, bien évidemment, comme d'habitude, il répondra à vos questions. Voilà, je vous remercie.
Alexander the Great, he severed the Gordian knot in Anatolia, the land that made him powerful. The Byzantine Emperor Justinian, his glory was derived from the opportunities and resources of this land. Sultan Suleiman the Magnificent, this country gave him strength and grandeur, as well as the distinction of ruling the world's largest empire. Mustafa Kemal Atatürk. He took the potential of this land and transformed it with dynamic restructuring that gave birth to the modern and secular Republic of Turkey. Civilizations and cultures have embraced one another in this land in friendship, love, and tolerance for thousands of years. Istanbul, the capital of three empires, will be the cultural capital of Europe in 2010. This land not only bridges the continents, but also possesses the potential for major endeavors with its extensive resources. Opportunities for profitable investment abound in this land of wealth and rewards. there is a competent guide who can lead your way in these lands where continents and cultures, opportunities and resources.
Alors, bonsoir à tout le monde. Je voudrais tous vous saluer très chaleureusement. Et laissez-moi dire que je suis très heureux d'être ici et c'est un très grand honneur pour moi. Ici, il y a les gens qui sont venus ici pour écouter, qui sont très chers à moi, que j'apprécie beaucoup. Madame le consul général est ici. L'un de mes amis de plus de 25 ans, Monsieur André Saint-Pé, est ici avec sa fille Julie. Et il y a votre ami aussi. Alors, je vous remercie infiniment tous pour venir ce soir pour m'écouter. Et aussi, pour moi, c'est très valeureux, disons, de parler dans une université, parce que nous croyons et nous savons que l'université et l'éducation, c'est une base pour tous. Et la France et l'éducation, c'est deux choses qui sont très importantes parce que nous savons très bien que les Français, ils ont apporté une toute nouvelle vision à l'éducation. Moi, je suis de Saint-Joseph, alors j'ai été éduqué par les Jésuites. Et je me rappelle toujours ce que Rousseau a dit. Quand vous savez, il soutenait que l'éducation doit être réalisée dans un entourage de liberté et de naturel. Il est dit, tout est bien dans le berceau de la nature et il est important de s'adapter à la nature dans le processus de l'éducation. Nous, en Turquie, nous croyons que les universités, ils ont deux fonctions. La première fonction, c'est éducation, bien sûr, éduquer les gens. Et la deuxième fonction, aussi importante, c'est de former les scientifiques. L'un des fondateurs de l'Empire ottoman, vous pouvez lui considérer comme ça, Koçi Bey, il avait dit « Le progrès de l'État se fait avec la science. Et le progrès de la science se fait par les hommes de connaissance. » Alors, c'est pour cela, pour moi, c'est très important d'être maintenant dans une université et de parler ici. Un deuxième mot pour la saison de la Turquie en France. Comme vous savez, il y a quelques jours que le président de la Turquie, de la République de la Turquie, était ici, son Excellence Monsieur Abdullah Gül. Et il a été reçu par son Excellence Monsieur Nicolas Sarkozy. Pour nous, la Turquie, la saison de la Turquie en France est très importante. Et je voudrais aussi remercier encore une fois Madame Consul Générale parce qu'elle a beaucoup travaillé pour cette saison. C'est important parce que la France, peut-être vous le savez, peut-être vous êtes conscient, peut-être vous êtes non, mais la France est l'un des quelques pays qui a une signification et un effet au-delà de la frontière française. Parce que la France a été toujours un terrain d'accueil des idées. Et pour nous aussi, pour nous les Turcs, la France a occupé toujours une place très particulière. L'occidentalisation en Turquie, au temps des Ottomans, s'est réalisée à partir de la France. Je vais vous donner un tout petit exemple. Comme M. Michaud a dit, moi, je suis le président de la Chambre de commerce d'Istanbul. C'est l'une des chambres de commerce les plus anciennes de tout le monde, en tout cas le plus ancienne de la Turquie. Nous avons été fondés en 1982. Et en ce moment-là, nous avons plus de 350 000 membres. Ça nous fait à peu près la cinquième plus grande chambre du monde. Et nous représentons 40% de l'économie turque. Bon. En 1985, ça veut dire 3 ans après la fondation, nous avons commencé, comme la Chambre de commerce d'Istanbul, publier un journal hebdomadaire. Et de 1885 jusqu'à 1924, ce journal a été publié en ottoman et en français. Et puis, de 1927, on a continué à publier ce journal en turc et en français. En ce moment-là, ce journal est publié en turc seulement. Nous avons un magasin mensuel. Celui-ci est publié malheureusement en turc et en anglais. Et le français seulement, c'est sur notre site web. Bon, j'ai voulu dire ça pour souligner encore une fois comment l'occidentalisation en Turquie avait commencé à partir de la France. Mais bien sûr, entre la Turquie et la France, nous avons eu des liens qui sont très importants, qui ont commencé déjà au VIe siècle. Je voudrais dire ça tout simplement. Comme vous savez, le sultan turc Süleyman le Magnifique, il a tendu sa main au roi de France. À cette époque-là, c'était François le Premier, pour lui aider contre l'empereur du Saint-Empire germanique Charles Quint. Et bien sûr, quand la politique commence, c'est toujours le commerce qui suivit. Ce qu'on a fait, l'Empire ottoman a accordé beaucoup de privilèges uniquement aux commerçants français. Je vais vous citer un exemple qui m'a touché beaucoup il y a, je pense, une semaine. Il y a une semaine, nous étions à Marseille et nous avons fait, encore pour la saison de la Turquie en France, un conférence économique à Marseille, entre la Chambre de commerce de Marseille et la Chambre de commerce d'Istanbul. La conférence s'appelait Axe économique Istanbul-Marseille. Et à cause de cette conférence, la Chambre de commerce de Marseille, il a fait une exposition. Cette exposition avait été faite par les archives de la Chambre de commerce de Marseille. Et dans cette exposition, il y avait des écritures et il y avait des permis. Il y avait des permis qui dataient du XVIe siècle et XVIIe siècle. Ces permis-là, la plupart de ces permis-là, étaient les permis ottomans qui ont été donnés aux commerçants français qui les permettent de venir en Turquie et d'acheter et de vendre et d'entrer dans les ports de la Turquie. Et puis, il y avait aussi les permis qui ont été donnés par le roi français et qui a été validé par la Chambre de commerce de Marseille, qui permettait les mêmes commerçants d'aller acheter les biens de la Turquie. Alors, celui-ci montre que la Turquie et la France sont historiquement très enracinées. Et peut-être c'est à cause de cette raison que Maximilien Robespierre avait dit « La Turquie est l'allié le plus ancien et le plus fidèle de la France. » Et puis, je vais vous parler un peu maintenant de l'économie turque et des entrepreneurs et des entreprises turques. Je ne veux pas donner trop de chiffres et d'aller trop de détails parce que j'aimerais bien que vous alliez me poser des questions. C'est pour cela que j'ai arrangé un petit film que vous avez vu. Dans ce film, il y avait beaucoup de chiffres et il y avait beaucoup d'images. Ainsi que, j'espère, ça vous a donné une certaine image de ce qui se passe en Turquie. Moi, étant le président de la Chambre de commerce d'Istanbul, laissez-moi vous dire que à peu près 25% de l'économie de la Turquie vient de l'Istanbul. 16% de la population de la Turquie vit à Istanbul. Et si Istanbul était un pays, avec cette population, il serait plus grand que 100 pays du monde. Et encore avec cette population, il serait plus grand que 19 pays de l'Union européenne. Le produit, le PIB de Istanbul, c'est-à-dire la valeur que Istanbul crée, c'est à peu près 200 milliards de dollars. Et avec ces 200 milliards de dollars, Istanbul, économiquement, est plus grand que 12 pays de l'Union européenne. Je vous donne ces chiffres-là pour vous dire un peu que l'Istanbul est l'économie et le locomotive de l'économie turque Et comme vous avez vu, la Turquie est la 17e économie plus grande dans le monde. C'est pour cela, si vous voulez comprendre l'économie turque, il faut que vous compreniez d'abord Istanbul et ce qui se passe à Istanbul. Et deuxième chose plus importante, c'est un peu de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'économie turque, quel est, disons, le trajet de l'économie turque pour les dernières 50 années, parce que vous aviez dit qu'il y avait une question comme ça dans les, oui, dans l'exposé passé. Laissez-moi commencer aux années de 60 et aux années de 70. À ces années-là, la stratégie de le développement de la Turquie, c'était la substitution des importations. Qu'est-ce que ça veut dire, la substitution des importations? Ça veut dire que, à ce temps-là, les gens croyaient que la Turquie doit produire tout ce qu'il achète de l'étranger, quel que soit le prix. C'est-à-dire, l'idée, c'était que la Turquie devrait être un pays qui est self-sufficient, qui se suffit. Peut-être en ce temps-là, c'était une stratégie intéressante, mais bien sûr, ce n'est pas une stratégie viable, parce que si vous essayez de produire tous par vous-même, ce n'est pas très bon, parce que c'est possible qu'il y a d'autres pays qui produisent les choses moins chères que vous. Alors, au lieu d'essayer de produire ça localement plus cher, c'est beaucoup mieux d'aller acheter et d'importer et essayer de produire en Turquie ce qu'on produit le mieux, le plus bonne qualité et le moins cher, et d'exporter. Mais on n'a pas fait ça au temps de 60 et 70. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vers la fin des années 70, la Turquie a fait l'objet des grandes difficultés financières. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans la balance des paiements. Turquie a eu beaucoup de dettes. Et puis, nous avons eu beaucoup de problèmes dans le financement des investissements. Nous avons voulu investir, mais on n'avait pas de l'argent pour investir. Et il n'était plus possible de progresser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aux années de 1980, nous avons eu d'abord un premier ministre, puis il est devenu le président, M. Turgut Özal. Il était vraiment un réformiste et il a fait des réformes économiques. Quelle sorte de réformes économiques il a fait? Il a introduit la libre marché. Il a introduit un système de production qui est visé à l'exportation. Il a fait la libéralisation commerciale. Il a beaucoup encouragé les exportations. Puis, il a fait une dévaluation de la lire turque, encore pour encourager les exportations. Et pour diminuer les coûts de l'État, les revenus de salariés en Turquie, ils furent limités. Et puis, ils ont assuré aussi passage à la convertibilité du livre turc. Maintenant, quand je vous parle de ces choses-là, à moi, ça semble très normal. Et je suis sûr que vous me dites, bon, Monsieur le Président, vous le dites, mais ce sont des choses banales que tout le monde fait. Mais croyez-moi, aux années de 80, c'était les choses tout à fait nouvelles pour la Turquie. Et personne ne comprenait rien du tout. Je vais vous donner un tout petit exemple, parce que je me rappelle ça encore comme aujourd'hui. Il y avait les élections. D'un côté, il y avait le parti de M. Turgut Özal, qui était, comme je vous ai dit, un grand réformiste. Il parlait de libre marché, de la convertibilité du lire turc et tous ces trucs-là. De l'autre côté, à son opposition, il y avait un parti socialiste. Et son président, c'était M. Necdet Calp. Il était un ancien soldat. Et pour expliquer toutes les choses qu'il voulait faire, M. Özal, il parlait des actions boursières. Et nous avons deux ponts à Istanbul. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à Istanbul, ils ont vu. À cette époque-là, nous avions un seul pont qui reliait l'Asie à l'Europe. Et bien sûr, comme maintenant, en passant sur ce pont, vous devez payer. Alors, ce que M. Turgut Özal a dit, il a dit dans son campagne électorale, je vais faire des actions boursières pour ce pont-là. Les gens vont acheter ces actions boursières et du revenu du pont, ils vont gagner de l'argent. C'est ce qu'il a dit. Et pour que le peuple puisse comprendre, il a dit, moi, je vais vendre le pont de Bosporus. Ce qu'il voulait dire, c'était vendre des actions boursières, monsieur. Et bien sûr, M. Necmettat disait, non, tu ne peux pas vendre le pont parce que c'est notre pont. Les étrangers ne peuvent pas venir acheter le pont. Alors moi, je me rappelle, dans la télévision, il y avait les débats qui duraient pendant des heures et des heures. Il y avait les gens qui disaient, on peut vendre le pont. Il y avait les autres gens qui disaient, non, on ne peut pas vendre le pont, c'est impossible. Tout le campagne électorale était sur le pont. Est-ce qu'on peut vendre ou bien est-ce qu'on ne peut pas vendre? Bien sûr, le pauvre peuple, il ne comprenait rien du tout. Et moi, je me rappelle encore les gens qui parlaient. Par exemple, un disait à l'autre, tu sais, Monsieur Özal va vendre le pont. Qu'est-ce que tu penses? L'autre répondait, bah, je ne sais pas, mais tu sais, disons qu'un étranger vient acheter le pont et puis un jour, il est enfâché et il arrête la circulation sur le pont. Comment on va traverser? C'était ça. Quand j'ai dit ça, maintenant, tout le monde sourit et ça ressemble à quelque chose qui vient de l'Antiquité peut-être, mais non. C'était les discussions de 1980 en Turquie et maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie. C'était tous grâce à M. Özal, grâce à la libéralisation. Et comme ça, nous sommes allés jusqu'à l'année 2000. Et à l'année 2001, nous avons eu encore un autre tournant dans l'histoire, dans le panorama de la Turquie. Nous avons vécu un très grand crise, exactement ce qui se passe maintenant dans le monde. Le même crise, mais seulement au niveau de la Turquie, nous avons vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les banques, et la plupart de ces banques-là appartenaient aux grandes holdings. Et tous ces holdings-là, ils ont bien sûr pris l'argent et puis ils ont donné à cet argent à leur propre société. Et à ce temps-là, à cause de crise économique en Turquie, il y a eu à peu près une vingtaine de banques qui s'est échouées et l'économie turque a perdu plus de 60 milliards de dollars. C'était une grande perte, bien sûr, pour la Turquie. Mais c'était bon aussi pour nous parce que nous avons pris des mesures. Quelles sont les mesures que nous avons prises? D'abord, on a formé un conseil bancaire d'audit et de contrôle. Puis, on a fait la stabilité financière macroéconomique. Et puis, nous avons introduit les mécanismes pour contrôler le marché financier en Turquie. Et grâce à ces mesures-là que nous avons eues en 2001, premièrement, la Turquie a grandi très vite entre 2001 et 2007. Vous avez vu les chiffres, je vais dire quelques chiffres encore maintenant. Et deuxièmement, le monde a subi cette crise financière, mais rien ne s'est passé en Turquie, dans le secteur financier, bien sûr. Dans le secteur financier, nous avons eu aucun problème bancaire grâce à la crise que nous avions vécue à l'année de 2001. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 7 années en Turquie économiquement? Comme vous avez vu au film, premièrement, nous avons eu une croissance moyenne, sans arrêt, à peu près 6%. Et le produit national de la Turquie a dépassé 742 milliards de dollars et le PNB par individu c'est devenu plus de 10 400 dollars. Alors, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Je vais vous donner une petite comparaison. Pendant les 7 dernières années, la Turquie a grandi 6% en moyenne. OCDE a grandi 2,6% moyenne et la zone euro a grandi 2% en moyenne. Alors, c'était ainsi l'accroissement de la Turquie. Et qui a fait ça? Est-ce que c'était l'État ou bien est-ce que c'était le secteur privé? C'était définitivement le secteur privé. Parce que ce qui se passait, après 2001, le gouvernement a encouragé beaucoup le secteur privé. Je vais vous donner seulement deux chiffres, ainsi que vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire le secteur privé pour l'économie turque. Le chiffre que je vais vous donner sont à peu près le même pour 207, 208 et 209. Les chiffres sont à peu près les mêmes. Je vais vous dire seulement exactement les chiffres de 2009. À 2009, dans tous les investissements de capital fixe en Turquie, seulement 19% est fait par le public et 81% est fait par le secteur privé. Ça veut dire que pour tout ce qu'on a fait en Turquie, 81% est fait par le secteur privé et 19% est fait par le secteur public. Mais bien sûr, tout a un coût. La Turquie n'avait pas assez de moyens pour financer tous ces investissements-là. On a financé par deux moyens. Premièrement, avec les investissements étrangers. Nous avons eu beaucoup d'investissements étrangers en Turquie pendant les 6 dernières années parce que toutes les grandes sociétés ont venu en Turquie quand ils ont vu ce climat qui est très lucratif. Et deuxièmement, le secteur privé a pris beaucoup de dettes. Laissez-moi vous donner un exemple aussi pour ça. Dans le premier trimestre 2009, ce sont les figures du premier trimestre 2009, la dette totale de la Turquie, c'est plus de 265 milliards de dollars. Et 67% de cette dette appartient au secteur privé et seulement 34% appartiennent au secteur public. C'est la position de la Turquie, de l'économie turque et ce que le secteur privé a fait pour la Turquie. Et si vous demandez quels sont les secteurs importants, quels sont les secteurs les plus forts de la Turquie qui sont au monde, c'est-à-dire disant qui sont développés au niveau international. Si j'étais ici il y a 10 ans, et si vous m'aviez posé cette question, j'avais seulement deux réponses. Je voudrais dire prêt-à-porter et tourisme. Mais maintenant, après 10 ans, comme vous avez vu dans les films, nous avons des secteurs qui sont très très forts dans le réseau mondial, comme l'automobile, comme l'électroménager, comme l'acier, comme la chimie. Quelques tout petits exemples, ainsi que vous compreniez ce que ces secteurs veulent dire pour nous, comment ils sont importants pour nous. Par exemple, vous avez vu dans le film le secteur électroménager. En ce moment-là, en Turquie, il y a plus de 2 millions de personnes qui travaillent dans le secteur électroménager. La capacité de production pour 2009, c'était plus de 25 millions d'unités par an. C'est la deuxième plus grande base dans toute la communauté européenne. Et les exportations de 2008, c'était à peu près 3 milliards de dollars. Et 66% de ces exportations sont faites vers l'Europe. Maintenant, vous pouvez me demander, vous pouvez dire que bon, quand je vais à un magasin ici, disons aux Champs-Élysées, et quand j'entre, je ne vois pas beaucoup de marques turques. Et vous me dites que 66% est fait pour l'Europe. La réponse est simple. Il y a beaucoup de marques européennes qui sont faites en Turquie. Un autre secteur qui est très important, comme je vous ai dit, c'est textile et prêt-à-porter. 30 milliards de dollars de production et de ce 30 milliards de dollars, 23 milliards de dollars, c'est exporté. Encore la même chose. Il y a beaucoup de vêtements que vous mettez, que vous pouvez penser que ce sont tous les vêtements de notre pays, mais en général, ce sont tous les vêtements faits en Turquie. Et il y a un autre secteur que nous sommes très fiers. Moi, particulièrement, je suis très fier parce que j'ai beaucoup travaillé pour ce secteur-là. C'est le secteur de construction. En ce moment-là, les constructeurs de la Turquie sont l'un des meilleurs dans le monde. Nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets partout. Tout un petit exemple. Il y a 2 semaines, j'étais à Qatar. Nous sommes allés là-bas avec à peu près 800 hommes d'affaires. Et j'ai parlé avec les constructeurs turcs qui travaillaient au Qatar en ce moment-là. Le travail total de 10 premiers constructeurs turcs au Qatar en ce moment-là, c'est plus de 11 milliards de dollars. Et c'est seulement pour Qatar. Il y a une autre question qu'on me pose beaucoup, c'est quels sont les premiers pays que la Turquie travaille avec ? Laissez-moi vous dire ça. Notre premier partenaire pour le commerce extérieur, c'est l'Allemagne. Et bien sûr, l'Allemagne est très importante pour nous, pas seulement pour le commerce extérieur, mais en même temps, l'Allemagne est le premier pays pour les investissements en Turquie. Et en même temps, l'Allemagne était le premier pays. Maintenant, c'est la Russie la première, l'Allemagne est deuxième. C'est pour le tourisme. Bon, mais pour le commerce extérieur, l'Allemagne, c'est le premier. Et la deuxième, grâce à Dieu, c'est la France. Et puis, c'est Grande-Bretagne. Et après, c'est Italie, Irak et les États-Unis. Et si vous demandez quels sont les premiers produits que la Turquie exporte, ce sont premièrement automotive et les sous-secteurs d'automotive. Le deuxième, comme je vous ai dit, c'est prêt-à-porter. Le troisième, c'est fer et acier. Et quand on regarde quels sont les 3 premiers produits que la Turquie importe, le premier, malheureusement, c'est les carburants minéraux, c'est-à-dire le pétrole, parce qu'en Turquie, nous n'avons pas de pétrole, et malheureusement, nous n'avons aucune centrale nucléaire. Mais il y a une chose qui est très bonne et qui est très intéressante. Quand le président Gül était venu ici et quand il a eu les discours avec le président Sarkozy, et j'ai entendu qu'ils ont parlé du nucléaire et peut-être la France va travailler avec la Turquie sur ce sujet-là parce que maintenant en Turquie, nous allons faire construire 2 centrales nucléaires. Il y a eu des pays qui ont participé à l'appel de l'offre et le meilleur est à la Russie, mais le gouvernement, à cause des soucis politiques et des stratégiques, il ne veut pas travailler beaucoup avec la Russie, parce que vous avez vu que, comme dans le film, en ce moment-là, la Turquie est très dépendante de la Russie concernant l'énergie, l'énergie du pétrole et l'énergie du gaz naturel. Alors, le gouvernement ne veut pas travailler aussi avec la Russie pour l'énergie nucléaire. C'est pour cela, moi, je pense qu'entre la Turquie et la France, on peut faire quelque chose concernant l'énergie nucléaire. Et puis, voilà, avant de terminer, laissez-moi vous dire une toute petite chose sur les investissements des étrangers et puis sur la communauté européenne. Et puis, je vais terminer et je vais vous laisser poser des questions ou bien dire vos idées. Comme je vous ai dit, en Turquie, il y a beaucoup de sociétés partout dans le monde, mais les Européens aussi, qui sont venus investir. Pour les 3 dernières années, chaque an, Turquie a reçu plus de 20 milliards de dollars d'investissements étrangers. Pour que vous ayez une idée, avant l'an 2000, nous recevions chaque année à peu près 1 milliard de dollars. Mais après tous ces changements financiers, nous avons commencé à recevoir chaque année à peu près 20 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 1 à 20. Alors, quelles sont les très grosses sociétés qui sont en Turquie en ce temps-là, qui sont investies? Il y a français Carrefour, partout maintenant en Turquie, l'autrichienne OMV, les Allemands, bien sûr, ils sont venus avec Bosch et Siemens, le britannique Vodafone, ils sont chez nous. Et puis aussi, il y a les Turcs qui sont partis acheter les sociétés partout dans le monde, en Europe particulièrement, et ils ont fait de gros investissements. Je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, Godivia, il a été acheté par une entreprise turque. Les téléviseurs Grundig, c'est une société turque maintenant qui les a achetés. Les appareils ménagers, Bloomberg. Les céramiques, Villeroy et Boch. Ce sont tous, en ce temps-là, sont acquises par les entrepreneurs turcs. Et la dernière question pour la communauté européenne, parce qu'on me demande ça beaucoup, partout quand je parle. Nous, comme les hommes d'affaires de la Turquie, nous soutenons que la Turquie devienne une partie de la communauté européenne. Si vous posez des questions, je vais aller plus en détail sur ça, mais maintenant je vais dire seulement les grandes lignes. Et il y a 3 ou bien 4 ans, vraiment en Turquie, il y avait beaucoup de gens qui voulaient que la Turquie devienne une partie de la communauté européenne. Il y avait une vraie motivation. Il y avait les sondages, je me rappelle, il y a 3 ans peut-être, plus de 75% de Turcs voulaient que la Turquie entre dans la communauté européenne. Nous avons eu un autre sondage il y a 2 mois seulement. En ce moment-là, c'était seulement 45%. Et pourquoi? Il y a beaucoup de choses, mais bien sûr, la chose qui est le plus important, disons, c'était la déclaration de certains politiciens européens ont un peu terni cette motivation. Pour nous, les hommes d'affaires aussi, nous avons maintenant une grande question, une grande marque de question. C'est au commencement, quand nous avions signé l'accord de libre-échange avec la communauté européenne, nous étions dans le marché libre, la Turquie a marché beaucoup et nous étions tous contents. Mais dans les dernières années, ce qui se passe, la communauté européenne a commencé à signer des accords de libre-échange bilatéralement. Mais ce qui se passe, la Turquie est dans l'Union européenne. Et quand l'Union européenne, sans consulter, sans prévenir la Turquie, il fait les accords avec les pays tiers, alors tous ces accords-là deviennent automatiquement viables et deviennent automatiquement obligatoires pour la Turquie. Parce que nous sommes une membre de l'Union douanière. Alors, en ce moment-là, peut-être vous savez, l'Union européenne est en train de signer un accord de libre-échange, peut-être c'est même déjà signé, avec Corée du Sud. Et pour nous, c'est un grand problème, parce que ce qui se passe, quand on signe cet accord bilatéral, tous les produits du Corée du Sud peuvent entrer librement à la communauté européenne, ainsi peut entrer librement en Turquie, sans aucune douane. Mais quand nous essayons de vendre aux Corées du Sud, les Coréens disent « Messieurs, on s'excuse, vous ne pouvez pas nous vendre. » Nous disons « Pourquoi ? Vous nous vendez ?» Ils disent « Oui, mais nous avons signé l'accord avec la communauté européenne. Eux, ils peuvent nous vendre tout librement, mais vous, vous ne pouvez pas vendre parce que vous n'êtes pas une membre de la communauté européenne. » Alors ça, c'est un très grand problème pour nous. Nous sommes en train de discuter ça. J'espère qu'on va résoudre ce problème, parce que si on n'arrive pas à résoudre ce problème, la communauté européenne continue à signer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de discussions qui vont en ce moment-là avec des pays tiers. J'étais à Bruxelles et j'ai parlé avec le commissaire, mais ça se passe comme ça. Ça va nous poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je sais très bien, si la communauté, si en Turquie, nous, les hommes d'affaires aussi, nous arrêtons de soutenir l'adhésion de la Turquie à la communauté européenne, soyez sûrs, cette histoire va finir. Cette histoire va finir pour tous. Bon, c'est tout ce que j'ai voulu vous dire maintenant. Je m'excuse si j'ai parlé trop. Parce qu'il y a quelques années que j'ai fait la politique, et comme vous savez, les politiciens, quand ils commencent à parler, ils ne savent pas comment s'arrêter. Chez nous, on dit il faut payer un sou pour qu'un politicien parle, mais si vous voulez qu'il se tait, il faut que vous payiez 10 sous. Alors, je me tais maintenant et la parole à vous. Merci.
Nous allons passer aux questions. Madame au milieu.
Bonsoir. Vous avez parlé du nucléaire et du pétrole et je voulais savoir quelle était la position de la Turquie et s'il y avait des engagements pris par rapport au développement durable.
Comment on fait ? Je prends toutes les questions ou bien un par un ? Un par un ? Voilà. Alors, quand vous dites durable, je pense que vous parlez des eaux, vous parlez du soleil et vous parlez du vent, n'est-ce pas ? J'ai bien compris. Voilà. Alors, ce qui se passe en Turquie, premièrement, malheureusement, la Turquie n'est pas un pays, contraire à ce qu'on pense, qui est très riche au point de vue de l'eau. Nous avons des rivières. Nous avons deux rivières qui sont très importantes pour produire de l'énergie, c'est-à-dire l'Euphrate et Tigris. Et nous sommes en train de construire des barrages sur ces deux rivières-là. Mais en ce moment-là, nous avons commencé à vivre des problèmes avec l'Irak et les Syries, parce que quand on construit ces barrages-là, on arrête l'eau. Pour le solaire et pour le... vous avez compris, pour le vent, disons. On a fait, et le gouvernement a fait, il y a 2 ans, un grand mouvement de libéralisation. Et on a libéré totalement l'énergie durable. En ce moment-là, le secteur privé a commencé à construire partout des tout petites centrales de 1 MW jusqu'à 10 MW pour l'eau, pour le vent, pas beaucoup pour le solaire, parce qu'en ce moment-là, le solaire est encore trop cher. Le gouvernement pousse ça beaucoup parce que, comme je vous ai expliqué, en ce moment-là, nous achetons trop de carburants minéraux et ça coûte beaucoup pour la Turquie. Et la Turquie essaie d'être self-sufficient pour l'énergie. Et je pense que dans quelques années, quand ces petites centrales de l'eau et quand ces petites centrales du vent entrent dans le réseau électrique, et ça va mieux se passer. Mais nous, en Turquie, nous avons définitivement besoin de l'énergie nucléaire. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, ça ne suffit pas.
Bonsoir. Merci pour votre présentation. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que la population de la Turquie, 72 millions d'habitants, puisse être un frein à son entrée dans l'Europe ? Parce que selon la Constitution européenne, elle en ferait le deuxième pays donc européen, après l'Allemagne. Ça ferait peut-être de l'ombre à certains.
Voilà. Vous avez...
Contrairement aux raisons qui sont avancées.
Vous avez totalement raison. Mon avis personnel, c'est en même temps l'avis de beaucoup de gens en Turquie. Et notre population, c'est le frein majeur pour l'entrée de la Turquie à la communauté européenne, parce qu'une fois que vous devenez membre avec 62 millions, alors votre présentation dans le Parlement européen votre présentation dans les commissions sera très majeure. Et je suis sûr que ça va créer beaucoup de problèmes, et particulièrement pour les grands pays. Vous avez tout à fait raison.
Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure sur la crise de 2001. Et j'aimerais bien savoir si vous avez appliqué les leçons learned de cette période pour pouvoir vous en sortir bien de la crise financière et économique, et quels sont les impacts que cette crise a eu en Turquie ou qui encore a, et si vous, grâce à la crise que vous avez vécue avant, ça vous a aidé à mieux la surmonter. Merci.
Merci. Vous parlez de cette crise maintenant, actuelle. Oui. Ce qui s'est passé en Turquie, nous n'avons pas vécu une crise, mais nous avons vécu un recul de grandissement, c'est-à-dire nous avons devenu plus petits. Parce que quand vous dites crise, ce que je comprends, il faut qu'il y ait des problèmes dans le secteur bancaire, il faut qu'il y ait des problèmes dans le secteur réel, et les deux en même temps, c'est une crise. En Turquie, le secteur bancaire n'a eu aucun problème. Au contraire, pendant la période de la crise, ils ont grandi 13%. Et bien sûr, et leur profitabilité, à cause des intérêts qui sont tombés, est devenue à peu près 30%. C'est incroyable. Et en même temps, le secteur réel de la Turquie est devenu plus petit, c'est-à-dire à... Ah, j'ai oublié le verbe maintenant. Décroître. Voilà. 14% premier trimestre, premier quartier, 7% deuxième quartier. Alors, pourquoi nous avons eu ça? Nous n'avions aucun problème dans le secteur bancaire, mais pourquoi la Turquie est devenue... la Turquie est arrêtée comme ça? Parce que entre 2001 et 2007, la Turquie a grandi avec deux paramètres. Le premier paramètre, c'était l'exportation. Le deuxième paramètre, c'était FDI, Foreign Direct Investment, c'est-à-dire les investissements directs en Turquie. Mais avec la crise, bien sûr, il y avait très peu de gens qui venaient encore investir en Turquie parce que l'argent est devenu très rare. Deuxièmement, tous les marchés sont devenus plus petits. Le marché européen est devenu plus petit. Personne n'achetait, alors il était impossible pour nous de vendre. À cause de ça, le marché local de la Turquie aussi est devenu plus petit. Et à cause de ces trois choses, marché local devenir plus petit, marché extérieur, l'exportation devenir plus petit, et les financements, les investissements venant de l'étranger devenant plus petits, le secteur réel de la Turquie, le secteur de la production de la Turquie, le premier quartier, nous sommes devenus plus petits, 14%, et le deuxième quartier, 7%. Et ce que nos calculs nous disent, qu'à la fin de l'année, nous allons finir l'année avec un taux de croissance de moins 6%, malheureusement.
Oui, bonjour monsieur. Une petite remarque déjà, je vous félicite pour la résolution de cette crise économique que vous avez en 2001. Je pense qu'on aurait dû envoyer nos Européens et notre président en stage chez vous, ça aurait peut-être évité la crise économique qui nous a touchés. Bon, c'est une petite remarque. D'autre part, j'aimerais savoir le taux de population turque qui travaille à l'étranger, compte tenu qu'il y en a beaucoup en Allemagne, beaucoup en France, etc. Ouais. Et si vous pouvez me donner un ordre de grandeur en ce qui concerne les charges sociales qui sont imputées aux entreprises, tant sur le plan fiscal aussi. C'est-à-dire qu'en France, vous avez quand même, pour un ouvrier, des charges sociales qui vont jusqu'à 60-70%. Et je ne parle pas d'impôt sur les bénéfices. Ce qui crée une concurrence très importante pour l'Europe ou peut-être d'autres pays. Voilà. Et troisièmement, je vous conseille de prendre des centrales nucléaires françaises. Elles sont beaucoup plus fiables que celles du RSS. Pensez à Tchernobyl. Merci.
Commençons par le troisième, les centrales nucléaires françaises. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a aucun doute. Concernant le taux de population en étranger, comme vous savez, la Turquie, c'est à peu près 62 millions. En ce moment-là, en Allemagne, je sais qu'il y a à peu près 3 millions de Turcs qui travaillent. Mais il y a un certain pourcentage, bien sûr, qui sont été nationalisés, c'est-à-dire qui ont pris la nationalité allemande. Il y a encore un certain qui travaille avec le permis de travail. Mais ce que je sais qu'en Allemagne, par exemple, parce que hier j'étais là-bas pour Anuga, en ce moment-là, 3 millions de, disons, de gens d'origine turque, turque ou bien allemand d'origine turque, avec 60 000 sociétés. Et il y a 500 000 personnes qui travaillent dans ces 60 000 sociétés. Et pour la France, je ne suis pas très sûr, peut-être 2 millions, madame consul? Non, moins. Voilà, moins en France. Je ne sais pas très bien les chiffres pour la France. 400. 400? 500 000. 500 000, ils disent à peu près. Pardon? Oui, et madame la consul dit qu'il y a beaucoup aussi qui sont devenus français, qui sont été nationalisés. Et quand vous regardez aux charges sociales, fiscales, je sais très bien de mon ami André Saint-Père que j'ai travaillé pendant des années et des années avec votre 35 heures, avec 70%. C'est vraiment pénible ici, hein. C'est difficile. Chez nous, c'est charges sociales, fiscales, c'est à peu près, ça commence de, disons, 25% et ça monte jusqu'à 40-45% dépendant de combien le monsieur ou bien madame gagne. Et notre charge sociale pour les sociétés, c'est 20%. 20% sur les bénéfices.
Une question au milieu.
Bonjour. Une question par rapport à l'implantation des entreprises étrangères en Turquie. Est-ce que la Turquie les favorise ou préfère ses propres entrepreneurs? Et quels pays, éventuellement, sont les plus favorisés? Et une deuxième question, est-ce que les relations franco-turques sont toujours les mêmes depuis 2 ans, l'élection de Sarkozy?
Aïe. Premièrement, sur la favorisation, en ce moment-là, en Turquie, il n'y a aucune différence entre quelqu'un français qui veut investir ou bien qui veut faire une société en Turquie et un Turc qui veut faire une société. C'est tout à fait la même chose. La seule différence, c'est que si vous avez une nationalité étrangère, il faut que vous vous inscriez, il faut qu'il sache qui vous êtes. C'est tout. Pour le reste, il n'y a aucune favorisation fiscale. Tout est même. Vous pouvez avoir vos bénéfices, vous pouvez les expatrier où vous voulez, il n'y a aucun problème. Quand ça vient sur M. Sarkozy, je devrais avoir, disons, je dois avouer qu'en Turquie, les gens sont un peu déçus. Quand Mme Merkel et M. Sarkozy parlent. Le problème, c'est que, je vais parler pour l'Allemagne et la France parce que c'est deux choses en même temps, c'est la même chose exactement. Nous avons des liens très historiques entre la Turquie et la France. Et la Turquie et la France, ce sont deux pays que je dis amis pendant les siècles et les siècles. Deux nations qui ont travaillé toujours ensemble et deux nations qui se sont aidées toujours. Pour les Turcs, disons simplement que les Turcs aiment bien les Français. S'il y a des gens ici qui sont partis en Turquie, qui sont voyagés, je suis sûr qu'ils l'ont vu ça. Mais ce qui se passe, de temps en temps, bien sûr, la politique est différente. C'est-à-dire, les politiciens peuvent penser d'autrement, c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal ce que M. Sarkozy veut et pense pour le bienfait de la nation française. Et c'est ainsi qu'il croit. Mais en Turquie, quand on entend les discours politiques, alors les gens disent que en 1960, il y avait un accord que nous avions signé. On avait décidé à quelque chose. À 2005, les discussions ont commencé et à 2005, on nous a dit que la Turquie va devenir membre de la communauté européenne s'il accomplit certains critères. Et bon, aujourd'hui, pourquoi il y a certains politiciens européens qui disent que, quels que soient les critères que la Turquie accomplit, la Turquie ne deviendra jamais et un membre de la communauté européenne. Les gens, ils ont un peu de difficulté à comprendre ça. Et quand celui-ci vient d'un président d'une nation qui est considérée amie, qui est considérée chère, alors les gens encore ont beaucoup plus de difficultés à comprendre. Je vais vous donner deux petits exemples. Le premier, ça vient de l'histoire turque. Nous avions un, disons, de l'histoire de l'islam. Il n'était pas un turc, mais il était un arabe. Il avait dit les choses, parce qu'il était un grand soufi, un très grand soufi. Il avait dit les choses, et en ce temps-là, les gens ont pensé qu'il disait les choses contre les dieux, contre le dieu, contre l'islam, et ils ont voulu le tuer. Alors, on lui a attrapé, on a lié les mains, et il marchait vers l'endroit où il va être pendu. Et bien sûr, le peuple était très enragé, et tout le monde lui jetait des pierres. Les pierres venaient, mais le monsieur, le grand soufi, ne disait rien. Il y avait un des disciples de cette soufi-là, et il a jeté une rose pour montrer, disons, l'affection. Et quand la rose est venue, le soufi a dit « Ah, ça m'a touché beaucoup. » Alors les gens ont demandé « Tu as reçu des coups de pierre, tu n'as rien dit, mais tu as reçu une rose et tu dis que ça fait mal, pourquoi ?» Alors soufi a dit « Parce que tous ces gens-là qui jettent des pierres, ce sont les gens que je sais qu'ils ne m'aiment pas, mais ce disciple, il est très cher à moi, même le rose qu'il me jette m'a fait du mal. » Alors, c'est pour cela que quand la France parle, ou bien quand l'Allemagne parle contre la Turquie, ça fait vraiment mal en Turquie. C'était le premier exemple. Il y a une deuxième chose que je voudrais dire. Il y avait quelques ans que j'étais à Bruxelles, et je parlais avec les journalistes qui travaillaient au sein de la communauté européenne. Et il y avait un journaliste grec qui m'a posé à peu près une question similaire. Il dit, vous essayez d'entrer à la communauté européenne, si un jour on vous dit non, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que c'est la fin de tous pour la Turquie? Et je lui ai dit que il y a un très fameux poète grec. Je suis sûr que vous lui connaissez. Il a vécu aux années de 1950, Kavafi. Et Kavafi, il a un très fameux poème qui s'appelle Ithaca. Dans Ithaca, Kavafi parle, celui-ci passe au temps de l'Antiquité, un guerrier grec, un jeune guerrier grec, qui vit dans un petit village en grec au temps de l'Antiquité. Et un jour, ce guerrier, il entend parler d'une ville qui s'appelle Ithaca, d'une ville très riche et une ville où il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de know-how. Et lui, il dit, moi, je veux être un savant, je veux apprendre des choses, alors il faut que j'aille au Ithaca pour étudier là-bas. Et il commence à son voyage. Son voyage prend des années et des années, et pendant le voyage, beaucoup de choses se passent, et après beaucoup d'années, notre guerrier, maintenant un homme mûr, pas plus un jeune, il arrive à Ithaca. Mais bon, quand il arrive à Ithaca, il voit que Ithaca n'est plus cette ville grandiose avec beaucoup de savants, avec beaucoup de richesses, mais Ithaca est devenue une petite ville quelconque. Alors il est très déçu. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai gaspillé toutes mes années pour arriver à cette ville-là? Il dit, non, je n'ai pas gaspillé toutes mes années. J'ai gagné beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses pendant mon voyage. Alors, mon Ithaca n'était pas cette ville, mais mon Ithaca, c'était mon voyage. Alors, c'est la même chose pour la Turquie aussi. Notre Ithaca, c'est le procès. C'est le changement. Tous les changements que nous subissons. Je vous ai déjà parlé ce que le changement du système financier a fait pour la Turquie. Nous avons fait beaucoup de choses dans les autres sujets aussi, dans le sujet culture, dans le sujet de science, dans le sujet politique. Je suis sûr que les autres gens qui ont venu ici parler, ils ont parlé de toutes ces choses-là. C'est pour cela que je ne vais pas répéter. Mais l'essentiel, c'est que notre Ithaca, notre communauté européenne, ce n'est pas l'adhésion, mais c'est le procès.
On va prendre une dernière question.
Bonsoir, monsieur. Reconnaissant vous-même tout à l'heure les difficultés qu'engendrerait l'importance de la représentation qu'aurait la Turquie dans l'UE, ne considérez-vous pas que cette difficulté soit une fin de non-recevoir à l'adhésion de la Turquie dans l'UE?
Est-ce que vous pouvez poser encore une fois, parce que je n'ai pas compris. Ouais.
Reconnaissant vous-même les difficultés qu'aurait le poids de Turquie dans la représentation européenne...
Oui, à cause de la population.
Voilà.
Oui.
Ne considérez-vous pas que ces difficultés soient une fin de non-recevoir à votre adhésion au sein de l'Union européenne? Tout à l'heure, vous-même sembliez dire que cela engendrerait beaucoup de difficultés.
Ok, bon. Ce n'est pas mon, domaine, mais je vais essayer de répondre. L'adhésion de la Turquie à la communauté européenne pour l'Europe n'est pas une simple décision d'accepter un pays ou non. C'est une décision qui est tout à fait différente. C'est une décision stratégique qui concerne définitivement le futur de l'Europe. Quelle sorte de l'Europe les Européens veulent? Si l'Europe veut, pour son futur, une Europe nucléus, une Europe centralisée, une Europe très homogène, une Europe de pouvoir régional, alors la Turquie n'a pas une place dans l'Europe, définitivement. Mais si l'Europe veut un futur qui est un peu différent, une force mondiale avec plus d'une culture, avec plus d'une religion, avec un système de gouvernement plus libre, pas si dense, mais disons plus flexible. Alors, en ce moment-là, l'Europe a besoin de la Turquie. Alors, c'est tout à fait au peuple de l'Europe et aux politiciens de l'Europe à décider à ça. Nous, les Turcs, nous n'avons rien à dire. Parce que c'est aux Européens de décider concernant le futur de l'Europe. Moi, je sais très bien que l'acceptance de la Turquie à la communauté européenne ou bien la réjection de la Turquie à la communauté européenne n'a rien à faire avec la Turquie. C'est tout à fait une question qui doit être répondue par l'Europe concernant son futur. C'est pour cela, ce poids de la Turquie, parce que quand la Turquie entre dans la communauté européenne, comme on a dit, ça va être un grand poids, comme la population, mais en même temps, ça veut dire pour l'Europe être une force mondiale, parce qu'en ce moment-là, les borders, voilà, les frontières de l'Europe iront jusqu'au Iran, iront jusqu'à l'Irak, iront jusqu'au Caucase. Ça veut dire un certain contrôle sur la production de l'énergie. Ça veut dire un contrôle complet sur le transport de l'énergie. Comme vous avez vu, quand vous regardez à l'est de la Turquie, c'est 70% de la production de l'énergie du monde. Quand vous regardez à l'ouest de la Turquie, c'est plus de 50% de la consommation de l'énergie du monde. Alors, c'est à décider de l'Europe. C'est pour cela, nous, comme les Turcs, nous attendons le résultat, parce que l'Europe va décider à ça, mais notre devoir, c'est de faire un bon processus, ainsi que nous avons un meilleur avenir, comme les Turcs.
Une tasse, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.